Bienvenue si vous vous joignez à nous, aux amateurs de sport pour la deuxième heure. Je vous rappelle qu'il y a des matchs de soccer qui sont terminés. Quatrième journée de la Coupe du Monde. Juste avant d'aller retrouver Hélène Pelletier pour parler de tennis, je vous rappelle que la Serbie a battu le Costa Rica 1-0. Victoire du Mexique contre l'Allemagne 1-0. Ça, c'est la surprise de la journée et même de la compétition jusqu'à maintenant. Il y en aura peut-être d'autres. Puis il y en a eu une petite surprise, mais quand même une surprise. Match nul de 1-1 entre le Brésil et la Suisse. Ça s'est terminé il y a quelques instants seulement. US Open, petite mise à jour également de ce côté-là. Patrick Reed et Brooks Koepka partagent la tête up à plus 1 pour l'instant. C'est un coup de mieux que Tommy Fleetwood qui a terminé sa ronde d'aujourd'hui. Au baseball, les Blue Jays sont en avance 6-5 sur les Nationals de Washington. Les Blue Jays en quête d'un balayage contre les Nationals. C'est en début de 8e manche. Alors, c'est l'essentiel des résultats qu'on suit pour le moment. La semaine dernière, je lui avais lancé l'invitation de dresser un bilan de nos joueurs et joueuses canadiens, canadiennes sur le circuit de l'ATP et de la WTA parce qu'on est à peu près à mi-chemin dans la saison. On est passé deux semaines après le tournoi de Roland-Garros et celui de Wimbledon débute dans deux semaines. Donc, on va faire un petit bilan de nos Canadiens et Canadiennes avec Hélène Pelletier. Bonjour Hélène!
Oui, bonjour Pierre!
On va commencer par une belle nouvelle quand même s'il a perdu. Milos Raonic qui fait la finale à Stuttgart, c'est quelque chose de vraiment intéressant là, dans le contexte où Raonic n'a pas joué depuis un bout de temps et a été blessé souvent dans la dernière année.
Ouais, puis il vient de perdre contre le numéro 1 mondial.
Ouais, c'est pas gênant.
Hein, Federer, avec sa victoire en demi-finale face à Nick Kyrgios au bris d'égalité de la troisième manche, a retrouvé la première place mondiale. Et ça a été fascinant, ce tournoi-là. Oui, je vais revenir à Milos parce que c'était, dans le fond, ta question, mais je peux pas passer sous silence la semaine que Roger Federer, après 3 mois d'arrêt, parce qu'il n'a pas joué du tout toute la séquence sur terre battue qui commençait à Monte Carlo au mois d'avril, de jouer comme ça au tennis, d'être si léger, d'être si fort en jambes, si explosif et de servir si bien, de volleyer si bien, de faire toujours quasiment les bons choix et d'être presque inaccessible aujourd'hui devant un Milos Raonic qui lui aussi, Pierre, a décidé de faire abstraction de Roland-Garros pour mieux se préparer. On se demandait s'il nous cachait encore une fois une autre blessure alors qu'il est revenu cette année. Puis il a quand même connu de beaux moments, Milos, avec quoi, quart de finale à Indian Wells, demi-finale. Tu sais, il a fait de belles choses compte tenu du peu de tennis qu'il a joué depuis la fin de l'année dernière. Mais aujourd'hui, Federer face à Raonic, c'était un match tellement à caractère offensif. Je veux bien croire que nous sommes sur le gazon. Ouais. Et en l'occurrence, le tournoi de Stuttgart, qui fait partie maintenant depuis quelques années seulement de cette petite préparation qui dure 3 semaines avant le grand tournoi dans le cossu petit village de Londres à Wimbledon. Honnêtement, on a 3 semaines maintenant entre la fin de Roland-Garros et le début de Wimbledon. Et les joueurs en profitent pour aller se faire la main et se faire le pied, voir si on a le pied vert avant. Et Milos a été fantastique durant la semaine hier. Il n'a donné que 3 balles de bris dans tous ses matchs. Oh. Il a servi 77 aces avant la rencontre d'aujourd'hui, et ça en quatre matchs pour se défaire de Lucas Pouille, de Futsovic, de Berdic et de Basic. Honnêtement, il a été extraordinaire et moi j'étais contente parce que la première chose que je regarde lorsque je vois Milos Raonic jouer au tennis, c'est s'il est en train de nous cacher des choses. Ouais. S'il joue au tennis avec ce qu'il a comme arme parce qu'il n'est pas capable de faire mieux, mais honnêtement, la palette était totale. Il était capable de bien bouger, il était capable de volleyer avec une telle confiance, il se présentait sur une base régulière au filet, je vois pas loin derrière comme lorsqu'on l'avait laissé sur la série américaine au mois de mars et d'avril. C'est sûr qu'il a perdu aujourd'hui, mais il a perdu de façon très, très serrée. Ça a été un 6-4-7-6 devant Roger Federer. Il a eu quelques petites chances après avoir été brisé à 1-1. Il a eu un 15-40 sur le service de Federer qui lui a claqué la porte au nez. Et au deuxième set, mais il a servi en premier dans la manche. Il menait 6-5 et un 0-30 sur le service de Federer qui, encore une fois, il est allé d'une rafale de coups plus spectaculaires les uns que les autres pour remporter ce bris d'égalité. Et le tournoi de Stuttgart, c'est un 18e titre sur gazon pour Federer, un 98e en carrière. Hey, le gars, il n'a pas joué sur le circuit depuis 3 mois. Pierre, qui peut faire ça? Qui peut être sharp comme ça à un retour au jeu? Ça me fascine, honnêtement. Puis en même temps, comme Milos l'a si bien dit à Federer lorsqu'il avait le micro et le trophée du finaliste entre les mains, il lui a dit Winning never gets old, eh, Roger? Alors, on se tente jamais de gagner, mon bon vieux Roger. Il a essayé de sourire un peu, mais il était un peu frustré. Et ouais. Ce n'est que le début. Moi, je suis très, très encouragée. Faut se souvenir que Miloš Raonic a déjà fait une finale à Wimbledon.
Oui, c'est vrai. Est-ce que le gros service de Raonic et devient une plus grosse arme sur le gazon? Oui. Est-ce que parce que la balle glisse, j'imagine, sur le premier bond, c'est plus difficile à retourner?
C'est intouchable. Okay. Intouchable. Et aujourd'hui, c'est normal, c'est décevant parce que c'était sa moins belle performance au service de la semaine. Puis c'est normal, tu sais, t'as le bonhomme qui écrit l'histoire à chaque fois qu'il foule un central. Alors, il était un petit peu plus nerveux, un petit peu plus tight. Puis malheureusement, il a donné des balles de bris à Roger qui en a profité à 1-1 déjà dans le premier set. Mais sinon, il a connu une semaine extraordinaire au service.
OK, parfait. Alors, ben là, on a fait le tour de Milos. On va prendre quelques minutes pour parler des autres du côté masculin. Denis Shapovalov a seulement 19 ans, 23e au classement de l'ATP. Je veux faire attention à ma question parce que je ne veux pas que ce soit pris de façon négative. Je trouve que son parcours depuis un an, depuis la Coupe Rogers l'an dernier, ça ressemble beaucoup au parcours d'Eugénie Bouchard en 2014.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, il a progressé vite. Est-ce qu'il a progressé trop vite? Ça se peut-tu?
Ben, moi, je trouve pas qu'il a progressé vite, comme tu dis. Je pense qu'il a progressé vite. Ah non, mais ça n'a pas de bon sens. Il est absolument fabuleux, le kid, avec toute la pression sur les épaules. Mais la bonne nouvelle, Pierre, quand on comprend comment fonctionne le classement qui compte, pas le classement à la course qui te permet, là, si t'es parmi les 8 meilleurs, de faire ta place au championnat de fin de saison, mais celui qui est compté sur 12 mois.
Exact.
Donc, à partir du moment où Denis Shapovalov va se présenter à la Coupe Rogers cet été au mois d'août, devant les siens à Toronto, là, il défend tous les points de sa demi-finale de l'année dernière.
Ça va être plus dur,
Et la bonne nouvelle dans ce temps-là, et ça avait été malheureusement ce qui avait un peu coulé Vacek Pospisil dans le temps, lui aussi qui avait connu une percée extraordinaire avec une demi-finale à la Coupe Rogers chez nous à Montréal, c'est qu'il faut faire des points dans d'autres tableaux que tu n'as jamais joué avant.
C'est
sa première
payant,
année où il rentre dans tous les tournois. Après un début d'année un petit peu difficile, il se présente au tournoi de Delray Beach, qui est un tournoi de la série 250, au mois de février, et se rend jusqu'en demi-finale, avant de perdre contre Tiafoe, qui a gagné le tournoi. Par la suite, à Miami, il fait quand même une ronde des 16, le kid. Puis il gagne un tour à Indian Wells. Tu sais, il n'était pas dans ces tableaux-là l'année passée, il était dans des Challengers. C'est des petits tournois de rien du tout. Et là, ben évidemment, on parle de Madrid, un autre tournoi de la série 1000. Il bat Miloš, il bat Sandgren, il bat Per, il bat Edmund, et il perd sèchement devant Zverev, mais encore là, c'était une première grande performance sur terre battue.
Exact.
C'est un tournoi de la série 1000, il perd en demi-finale, ronde des 16 à Rome. Deuxième tour, quand même, à Roland-Garros. Là, on était peut-être un petit peu déçus. Puis cette semaine, au tournoi de Stuttgart, il a perdu au premier tour devant un bonhomme de l'Inde. Mais les Indiens, sur gazon, ils sont très, très bons. Il y a beaucoup de terrain en gazon dans ce pays-là. Ils jouent beaucoup au cricket, donc ils ont l'habitude de glisser sur cette surface. Puis il a perdu en 3-7. Donc il va se reprendre. Il jouera d'ailleurs demain matin au tournoi de Queens. Nous serons là à 7h du matin pour faire le match en direct de Denis Shapovalov. Mais c'est extraordinaire. Il est le meilleur Canadien. Il va encore avancer au classement parce que, comme je te disais, ce sont d'immenses points qu'il va chercher auxquels il n'avait pas accès l'année dernière.
Alors,
imagine, c'est vraiment extraordinaire. Puis, il est en santé, il continue d'apprendre, ça c'est certain, c'est jamais facile. Il n'y a pas un match qui est facile. D'ailleurs, je lisais un article sur lui parce que tu sais qu'il est dans le, attention, mesdames, dans le magazine GQ cette semaine. Oui,
gentleman
mignon comme tout.
Lee.
Oh oui, vraiment, vraiment cute, puis sympathique. Puis il dit, le plus difficile pour lui, parce qu'il a juste 19 ans quand même, hein, c'est le fait que semaine après semaine après semaine, t'as pas de match facile, c'est toujours très intense. Puis vu qu'il était très, très bon dans les Challengers, il y avait quand même un ou deux tours d'assez facile. S'il jouait juste normal, il pouvait s'en sortir, tu comprends? Mais là, c'est une autre game complètement, puis il s'ennuie de sa maman, puis il s'ennuie de son papa, puis de ses chiens, puis de ses amis. Il est tout jeune encore, mais écoute... 23e au monde, c'est assez spectaculaire.
OK, il nous reste, Hélène, à peu près 5 minutes pour faire tout le reste.
Pour Jeannie, tu veux parler de Jeannie?
Ben, avant,
il faut que je te... à Birmingham,
Mais avant, il faut que je te parle de Félix Auger-Aliassime, qui a gagné pour une deuxième année de suite à Lyon aujourd'hui, un tournoi Challenger. On a souvent mis Auger-Aliassime et Shapovalov côte à côte dans les prospects canadiens. Est-ce qu'il a le même potentiel que Shapovalov?
Écoute, je vais pas le dire trop fort, là, parce que je veux tellement pas mettre de pression supplémentaire sur Félix Auger, mais je pense qu'il m'écoute pas.
OK.
Il est encore plus fascinant.
Ah oui.
Que Denis Shapovalov.
Parce que j'ai lu que McEnroe, Blake et Courier lui prédisent un top 10 mondial avant longtemps.
Oui, moi aussi. S'il peut rester en santé, puis s'il continue de grandir, parce que c'est un tempérament un petit peu nerveux. Et ça, quelquefois, c'est plus difficile de c'est la beauté de Denis Shapovalov. Hein. Mm-hmm. Quelquefois, il joue des points importants en laissant aller des coups gagnants. C'est fascinant. Et Félix Auger est un petit peu plus mesuré dans ce domaine-là, mais il est tellement félin. Il me fait penser à un jeune Yannick Noah. Ouais. Il est vraiment tellement beau à voir. Moi, lorsque j'ai vraiment... je vais l'appeler comme un spécimen physique. Aussi une technique tellement bien travaillée, d'abord à l'Académie Hérisset-Bordeleau à Québec, mm-hmm. avec son papa qui a été son premier coach et qui a pris, comme tu le sais sans doute, maintenant les rênes de cette Académie. Mm-hmm. Jack va bien sûr, avec toute l'expérience qu'il possède, et Jacques également, Bordeleau, ils vont garder aussi certains dossiers. Ils aiment voir les jeunes, ils veulent les voir prospérer, donc on va garder un œil. Mais honnêtement, Félix Auger-Aliassime, il est pour moi, là, un immense talent. C'est un plaisir toujours de le voir aller. Puis il faut lui donner le temps, évidemment, de gravir les échelons.
Parfait. On va être patient un petit peu avec lui.
Non, beaucoup patient, parce qu'il est encore plus jeune que...
Oui. Il y a un an plus jeune.
Que Denis Shapovalov.
OK. Là, on est rendu à Eugénie. 194e au monde. Elle a gagné son premier tournoi son premier match de qualification au tournoi de...
Birmingham
en Angleterre. Deux, elle a gagné aujourd'hui. OK.
Oui.
Jusqu'où a-t-elle pu remonter?
Oh mon Dieu. honnêtement, j'aimerais ça te répondre de façon logique, mais elle a tellement peu gagné. Elle a perdu au premier tour de Roland-Garros en qualification. Mm-hmm. Elle qui était à quelques points de se rendre en finale en 2014. Elle a perdu au premier tour du tournoi de Charleston. Elle a gagné un tour de qualif au tournoi de Miami. Elle a perdu au premier tour d'Indian Wells. Et ça, ce sont des tournois dans lesquels les filles, les meilleures au monde, là, avaient hâte de voir si elles étaient dans le portrait, dans leur partie de tableau, parce qu'elles avaient peur d'Eugénie. Mm-hmm. J'avais malheureusement beaucoup d'espoir, comme d'habitude, lorsqu'elle s'est présentée en coupe faite.
Ben oui, elle avait joué tellement bien.
Ah oui, elle avait joué super bien. Puis à tout point de vue, c'était beau. Oui. Côté attitude, côté explosivité, ça paraissait qu'elle avait travaillé physiquement. Ça paraissait aussi qu'elle avait fait des efforts mentalement, qu'elle consulte quelqu'un comme il se doit. Tous les meilleurs le font, tous les meilleurs l'ont fait. Donc elle aussi. Et qu'on sentait vraiment un désir d'exceller. Puis elle s'en va jouer un petit tournoi. Puis on espère qu'elle va vraiment faire comme une fusée, remonter. Puis elle se blesse à nouveau aux abdominaux. Ouais. Une vieille blessure qui revient. Okay. Alors c'est difficile. C'est difficile de la suivre parce qu'on a l'impression que depuis 2015, c'est une histoire, c'est toujours la même histoire. Ça revient toujours, ces problèmes physiques. Hein? C'est pas les problèmes physiques, on a l'impression qu'elle est moins bien concentrée. Donc, c'est pas évident. Tu sais, c'est vraiment pas évident. Tu sais que c'est Carole Zhao qui est la meilleure Canadienne au classement.
Oui, 132e.
On n'a pas une fille dans le top 100. Alors ça, c'est un peu décevant, mais en espérant là que les choses vont continuer de s'améliorer.
OK. En terminant, je te donne un défi, faire ça en 1 minute 15. Françoise Abanda, 145e, elle a été blessée au tournoi de la Coupe Fed il y a quelques mois. Est-ce que on a vu trop grand pour elle? Est-ce qu'elle a plafonné ou s'il y a des bonnes choses qui s'en viennent pour elle?
C'est une excellente question. Du côté de, évidemment, on se souvient malheureusement des commentaires qui avaient fait énormément jaser lorsqu'elle avait avoué avoir été victime de racisme. Mm-hmm. Puis honnêtement, moi j'ai vu ça comme un trop plein d'émotions, comme une fille qui gagne pas beaucoup, qui est déçue. Puis qu'elle réclamait qu'on parle plus d'elle parce qu'elle devenait par la porte d'en arrière, la petite porte par en arrière, là, la numéro 1 mondiale, parce que Eugénie n'arrête pas de dégringoler. Puis elle, c'est sans avancée. C'est pas comme elle fait des bonds de, tu sais, de 20, 30 places, 40 places, 50 places, qu'elle était maintenant rendue top 50. Mais là, on se refait un plaisir de rappeler ça aux gens, qu'elle était numéro 1 au Canada. Dans le fond, être numéro 1 au Canada, entre toi et moi, Pierre, ça ne veut rien dire. Ce qui compte pour gagner ta vie, c'est d'être top 50 au monde.
C'est exactement.
Parce que sinon, tu rentres pas dans les tournois où il y a de l'argent, où il y a des points. T'es toujours en train de te promener au diable vert dans des petits tournois mal organisés qui ont pas de points, qui ont pas d'argent, puis c'est la misère, là, tu sais. Alors, j'ai l'impression qu'elle aussi, après une année quand même, 2017, où elle avait fait de belles choses en Grand Chelem, qu'elle a un petit peu de difficulté à confirmer et à s'améliorer, effectivement.
Hélène, merci beaucoup. Malheureusement, on aurait pu poursuivre jusqu'à 5 heures, mais j'ai d'autres invités aussi à qui il faut
jouer. Ça te coûterait pas mal plus cher, par exemple.
Je sais. C'est aussi pour ça qu'on arrête ici. Bye-bye, Hélène. Merci, à bientôt.
Merci, au revoir. Bye.
Au revoir, Hélène Pelletier, avec qui on a toujours beaucoup de plaisir à parler de tennis. Au retour, on va chialer contre le tournoi de golf de l'US Open dans l'État de New York. On va parler avec Dave Lévesque.